Vous êtes sur RTL.
18h. RTL Soir, Julien Cellier. Bonsoir Julien.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir pour 2 heures d'infos tous ensemble. Ce soir à la une, est-ce que la France fait toujours rêver? Emmanuel Macron a joué au VRP de luxe aujourd'hui, sommet Destination France, objectif faire revenir les vacanciers étrangers. Notre invité de 18h15 sera Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du tourisme, et puis on en débattra à 19h15 dans On refait le monde. L'image du chic à la française, du Paris d'Amélie Poulain a-t-elle vécu? On s'interrogera. Les autres titres de l'actualité maintenant à suivre dans votre journal. Bonsoir Marion Calèche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Des sauveteurs démunis et désabusés. Des centaines de migrants secourus en mer ces derniers jours au large du Nord et du Pas-de-Calais. Mais une fois à terre, leur accompagnement est inexistant. Dans ce journal aussi, l'alerte de l'Organisation mondiale de la santé sur les contaminations de Covid qui repartent en Europe. Le dossier de la pêche, toujours pas réglé. Et un globe-trotteur qui devient international, portrait du nouveau venu dans le 15 de France, Thibaut Flamand. Les courses dans le Quintet Plus à Deauville, il fallait jouer le 15, le 2, l'As, le 4 et le 11.
À 18h30, les dessous de l'actu, les dessous de l'explosion des cas de Covid, notamment en Allemagne. Que se passe-t-il exactement chez nos voisins? Record absolu de contamination du jamais vu depuis le début de la crise sanitaire. À suivre aussi, laissez-vous tenter dernière Blanche-Neige au secours des parents pour occuper les petits en cette fin de vacances. 18h40, on va défaire le monde. Vos 20 minutes de curiosité avec Cyprien Signy et la bande. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le programme?
La voiture électrique au crash test. Et si l'automobile propre ne l'était pas tant que ça? Au menu également, la résurrection des Kennedy qui se fait sérieusement attendre et le champion de France de pizza acrobatique.
Et puis des points réguliers sur la météo avec vous. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Retour d'un temps calme et plus sec demain.
Détail dans quelques instants.
RTL Soir.
Le journal. Julien Cellier, Marion Calais.
Avec un cri d'alarme ce soir sur RTL, celui du président de la SNSM de Boulogne-sur-Mer, au moment où les tentatives de traversée de migrants se multiplient ces derniers jours dans la Manche.
Avec son lot de drames, 2 morts, 1 disparu, 2 personnes hospitalisées en hypothermie sévère. Et si 400 migrants ont aussi été sauvés, la logistique ensuite sur terre ne suit pas. Gérard Bresson, qui dirige les sauveteurs en mer de Boulogne, dénonce des défaillances inhumaines.
Ce qui peut justifier un cri d'alarme, c'est le fait que lorsque on les ramène au port, ils sont souvent dépenaillés, trempés, ils ont parfois perdu leurs proches, puisqu'il y a des morts, ils sont en détresse, et c'est la prise en charge à terre qui est défaillante. Hier, il y a eu à Boulogne des centaines de personnes qui ont été ramenées par les différents moyens mis en œuvre. C'était la débrouille pour trouver des couvertures de survie, trouver des vêtements secs. Ils n'avaient rien à manger. Pour la plupart, ils sont restés là sur le quai. En tant qu'humaniste, il y a beaucoup de rescapés d'un accident de mer qu'on a laissé abandonnés sur les quais.
Gérard Bresson, le président des sauveteurs en mer de Boulogne, avec Emmanuel Michel pour RTL. La situation des migrants et l'amélioration de leur prise en charge pour laquelle un prêtre jésuite de Calais avait entamé une grève de la faim. Il y a renoncé aujourd'hui pour travailler à la mise en place de l'accueil hivernal annoncé hier. Le mouvement de grève de 2 autres militants associatifs, en revanche, se poursuit. Elle ne cache pas son inquiétude. L'Organisation mondiale de la santé déplore la propagation rapide du Covid en Europe.
Par la voix du directeur de l'OMS sur le vieux continent, Hans Kluge, qui pointe un rythme préoccupant de transmission.
Selon les projections, et si nous restons sur cette trajectoire, nous pourrions voir un autre 500 000 de décès dus au Covid en Europe et en Asie centrale d'ici le 1er février prochain.
Alors parmi les pays les plus touchés en Europe, la Russie, l'Ukraine, la Roumanie, des records de contamination ont été atteints hier en Allemagne et en Croatie.
Pendant ce temps, aux États-Unis, pour pousser encore davantage la vaccination, la Maison-Blanche opte pour la contrainte. Carrie Newton, vous êtes la correspondante de RTL à New York. La grande majorité des salariés américains devront donc être vaccinés à partir du 4 janvier prochain.
Oui, il aurait préféré ne pas devoir en venir là, mais Joe Biden l'a affirmé ce matin, c'est la seule façon de faire sortir les États-Unis de cette pandémie pour de bon. Après avoir obligé militaires et sous-traitants de l'État à s'immuniser, le nombre d'Américains non vaccinés a baissé de 100 à 60 millions. Non pas sans manifestation, des éboueurs de New York aux ingénieurs d'un site de la NASA dans le Mississippi, les récalcitrants estiment en grande majorité qu'on les prive de leur liberté. Mais les autorités sanitaires prévoient même une amende pour les entreprises trop légères dans leur contrôle de 14 000 dollars, 12 000 euros. Alors, même si on ne sait pas exactement combien parmi les 84 millions de salariés concernés sont déjà vaccinés, on a un peu de recul sur ces obligations vaccinales. 96% du personnel médical dans les hôpitaux et maisons de retraite privées se sont finalement fait vacciner. Même taux de 96% dans l'un des plus grands abattoirs Tyson Foods. Les Américains ont préféré conserver leur emploi plutôt que de ne pas se faire immuniser.
Karine Otten, correspondante de RTL aux États-Unis. De son côté, le Royaume-Uni mise sur le médicament anti-Covid de Merck, un premier pays à l'autoriser. L'Agence européenne des médicaments pourrait prochainement lui emboîter le pas.
Après avoir montré les crocs, la France temporise à nouveau dans le dossier de la pêche.
Oui, pour obtenir des autorisations supplémentaires de pêche pour les Français dans les eaux britanniques. Paris avait menacé Londres de sanctions à partir du 2 novembre. C'était mardi. Ultimatum repoussé à aujourd'hui et de nouvelles discussions. Et après ces discussions, Bénédicte Tassard, eh bien, on promet de continuer à discuter.
Avec de nouveaux rendez-vous demain. Audience à la Commission européenne pour David Frost, le monsieur Brexit du gouvernement Johnson. Et en début de semaine prochaine, nouvel entretien entre Frost et le secrétaire d'État français aux affaires européennes, Clément Beaune, pour voir si oui ou non les réunions techniques progressent. Pour Clément Beaune, les Britanniques doivent faire un geste de bonne volonté en examinant les dossiers des petits navires français, ceux qui n'ont pas investi dans un système GPS et donc ne peuvent fournir de données numériques de trajectoire. C'est principalement sur ces bateaux de moins de 12 mètres qu'on ferraille. Et puis, il y a les navires de remplacement, ceux qui prennent la mer à la place de bateaux trop vétustes. Ils ont le même propriétaire. Ils doivent donc, eux aussi, obtenir une licence. Au total, 200 bateaux attendent une licence définitive. Clément Beaune reconnaît que des écarts importants subsistent, mais il ne se veut ce soir ni pessimiste, ni naïf. Il y a un espoir raisonnable d'aboutir à un accord selon Paris. Sinon, eh bien, on passera à la phase des sanctions. Vous l'entendez, l'épée de Damoclès, elle plane toujours sur la tête des Britanniques.
Quel feuilleton !
Et les pêcheurs continuent d'attendre.
Mais vous aimez ça, les feuilletons !
Tassard pour RTL, vous nous connaissez trop bien. Elle est soupçonnée d'avoir couvert son fils. C'est la troisième accusée du procès du meurtre de Mireille Knoll, cette octogénaire juive tuée d'une dizaine de coups de couteau chez elle en 2018. Ce procès, vous le suivez pour RTL, Guillemette Franquet. Vous avez donc assisté aujourd'hui au témoignage de cette maman accusée de complicité.
Oui, avec son inséparable écharpe verte autour du cou, Zulika Khelaf a voulu se montrer coopérative à la barre. Quand on vient ici, c'est pour dire la vérité, affirme-t-elle en préambule, étonnée de ne pas avoir à prêter serment. L'accusé n'a pas à jurer de dire la vérité. Il peut mentir, explique le président. Elle s'offusque. Je ne veux pas mentir. Je veux savoir la vérité pour le meurtre. Pourtant, le président commence par évoquer ses contradictions. L'interdiction de rentrer en contact avec son fils, Yassine Mioub, elle la transgresse le lendemain de sa garde à vue. Zulika Khelaf tente de se justifier. C'est lui qui m'a appelé, moi je ne voulais pas. Puis elle explique, je voulais savoir s'il l'a tué. Tout le long de son audition, sa personnalité se dessine ambiguë, oscillant entre naïveté et mauvaise foi. Quand elle évoque son fils, Zulika Khelaf ne mâche pas ses mots. Un jour, je lui ai dit, va te jeter dans la Seine. Elle raconte l'alcoolisme de Yassine Mioub, un malade qui a besoin de soins, sa violence envers ses sœurs, ses clés qu'elle refuse de lui confier de peur qu'il la vole. Zulika Khelaf s'explique en ce moment même, à la barre, sur les faits qu'on lui reproche, et notamment le couteau du crime qu'elle aurait peut-être nettoyé.
Un compte rendu d'audience signé Guillemette Franquet pour RTL.
Allez, votre journal se poursuit dans un instant sur RTL avec, vous allez l'entendre, une naissance, comment dire, mouvementée, c'est le bon terme, à tout de suite.
RTL Soir avec Julien Cellier. Plus. Julien Cellier, RTL Soir.
Et à 18h10, la suite de votre journal sur RTL avec l'histoire à présent d'un sauvetage par téléphone. Et oui, ou comment en août dernier, des pompiers ont aidé des parents dont le bébé venait de naître sur la route de l'hôpital.
La séquence a été dévoilée cette semaine par les pompiers de Charente-Maritime. Tendez l'oreille, en voici un extrait.
Oui, bonjour, je vous appelle, je suis avec ma conjointe, elle est en train d'accoucher, elle est sortie à noyer, j'ai la tête dans les mains.
D'accord, ok. Il est complètement sorti là.
Il est sorti, il est avec moi.
Oui, d'accord, ok. J'ai voulu frotter un peu le dos, d'accord.
Voilà, un bébé qui ne pleure pas jusqu'au conseil du pompier. Frottez-lui un peu le dos. Ces conseils qui les a dispensés, ce caporal toujours ému s'en souvient 3 mois après.
Je suis jeune opérateur. Je me dis, il faut que je lui fasse comprendre ce que moi j'ai en tête, ce que moi je ferais si j'étais sur les lieux. La personne au bout du fil, avec le stress, enfin, c'est son bébé, c'est sa femme, c'est à lui que ça arrive. Voilà, que je m'assure qu'il comprenne bien voilà, ce que je veux lui faire faire. Je lui ai expliqué qu'il fallait absolument qu'on débouche les voies aériennes du bébé. Donc je lui ai demandé de vérifier s'il avait rien dans la bouche. Je lui ai dit de mettre le petit doigt dans la bouche. Et et avec un calme olympien de la part du papa, il a fait les gestes, il a appliqué toutes les consignes et voilà, il a permis à son bébé de respirer correctement.
Le sourire encore incroyable sur les lèvres 3 mois après de Mickaël, ce caporal donc, qui répondait à nos confrères d'M6 en Charente-Maritime.
RTL, 18h12. Un petit nouveau et une innovation. Le sélectionneur du 15 de France a dévoilé ce matin sa compo pour le premier test match de l'automne. Ce sera samedi contre l'Argentine.
L'innovation, c'est la présence côte à côte des deux ouvreurs, Mathieu Jalibert, numéro 10, et Romain Ntamack, numéro 12. Et le petit nouveau, on va vous le présenter ce soir. Il a 24 ans, il joue en deuxième ligne à Toulouse. Il s'appelle Thibaut Flamand et il s'est mis sur le tard au rugby après avoir pas mal bourlingué, Jean-Michel Rascol.
Oui, petit, pas tout à fait. 2m03 tout de même.
Oui, quand même.
Bourlingueur, ça c'est sûr. Thibaut Flamand a découvert le rugby en Belgique. Ses études et le jeu l'ont conduit en Argentine, dans une université anglaise et chez les WAPS, l'un des plus vieux club de sa majesté, avant de rejoindre le Stade Toulousain avec lequel il est déjà champion de France et d'Europe. Un globe-trotteur animé de la fibre bleue, comme l'a rappelé ce matin le manager du 15 de France, Fabien Galthié.
Il paraît-il qu'il s'endormait avec le poster de l'équipe de France tous les soirs qui était accroché à son plafond et que tous les soirs, son dernier regard, c'était le maillot tricolore. C'est peut-être un ovni de par son parcours et ça encourage en fait tous les jeunes passionnés. Ils peuvent un jour être des Thibaut Flamand. Et puis, vous avez aussi des gamins qui tracent Romain Ntamack, comme Mathieu Jalibert, comme Antoine Dupont. C'est une belle équipe de France qui ressemble beaucoup à un joli peuple gaulois.
Voilà, Thibaut Flamand, un deuxième ligne qui aime le ballon. Jusqu'à ses 18 ans, il jouait arrière ou ouvreur, résolument atypique.
Voilà, à retrouver donc pour ce France-Argentine, samedi au Stade de France, ce soir en foot, 18h45, la Ligue Europe, Lyon face au Sparta Prague, Monaco contre Eindhoven, à 21h, Marseille face à la Lazio Rome, et en Ligue Conférence, Rennes face aux Slovènes de Murat.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Et je voulais vous faire entendre dès ce soir les confidences de Björn et Benny, parce que demain sort le 9e album d'ABBA, près de 40 ans après leur séparation. Ils se sont confiés à Stephen Bellery, ils ont raconté leur retrouvaille en studio.
Comme si c'était hier. On était tous aux mêmes places qu'il y a 40 ans. On s'est assis autour du piano, on a travaillé les harmonies, les chœurs, et puis les filles ont commencé à chanter. Elles ont été très rapides. On ne leur a même pas demandé si elles étaient encore capables de chanter. Björn et moi, on croisait les doigts.
On arrivait en studio, on jetait un œil à la régie, je donnais les paroles à tout le monde. Benny jouait la mélodie, les filles chantaient. En deux fois, elles avaient compris. C'était exactement comme avant. And
it was like exactly the same actually as back then.
Benny au micro RTL de Stephen Bellery, entretien exceptionnel à retrouver demain 9h, laissez-vous tenter.
C'est noté, merci Marion, à tout à l'heure. Le temps, Peggy, pour demain, dites-nous tout.
Un temps plus sec avec de belles éclaircies sur le nord-ouest toute la journée sur la façade atlantique, du beau soleil sur le sud-est toute la journée avec du vent, et entre les deux du sud-ouest au nord-est, là le temps sera chargé le matin avec encore quelques averses mais beaucoup plus rares l'après-midi, et encore quelques flocons également en montagne sur les Vosges, le massif central et les Pyrénées, tout ça sous des températures un peu fraîches de 8 à Aurillac, à 18 à Toulon, c'est beau dans le sud-est et c'est plutôt doux, mais 12 seulement à Rennes et à Paris.
Merci Peggy. Dans un instant, cette question, est-ce que la France fait toujours rêver à l'étranger? Opération séduction d'Emmanuel Macron aujourd'hui, sommet Destination France pour tenter de faire revenir justement les vacanciers internationaux. Notre invité dans un instant, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État chargé du tourisme. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
Ils sont là.
Julien Sellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, 18h, 18 minutes, bonne fin de journée avec RTL. Cette question maintenant, est-ce que la France fait encore rêver? Comment faire revenir les touristes étrangers? Emmanuel Macron a joué au VRP de luxe aujourd'hui, il a ouvert le sommet Destination France. Avec cet objectif, booster notre attractivité. Une cinquantaine de géants du secteur étaient présents, à la fois nationaux, internationaux, Accor, Marriott, Club Med et j'en passe. Ce soir, notre invité est justement le secrétaire d'État chargé du tourisme. Bonsoir Jean-Baptiste. Baptiste Lemoine.
Bonsoir.
Alors avant d'échanger ensemble, on va dresser un état des lieux du secteur. Donc on va poser trois questions à notre brigade RTL. Bonsoir Arnaud Touche.
Bonsoir Julien.
Alors le tourisme, c'est 7% de notre PIB quand même. Secteur, on l'a dit, on l'a répété sur cette antenne, paralysée pendant la crise. On en est où aujourd'hui ?
Eh bien, le secteur, il tente de tenir la barre, même si c'est toujours difficile. Quelques chiffres pour comprendre. Le tourisme en France, c'est 2 millions d'emplois aujourd'hui. À Paris, porte d'entrée aussi pour les touristes étrangers. Le shopping pèse 2 milliards d'euros. Le secteur y relève un peu la tête, c'est vrai, car les Français ont voyagé en France. Ça, c'est vrai aussi. Il suffit de regarder les réservations, notamment de trains, ces derniers mois et ces prochains mois pour s'en rendre compte. Mais la clientèle française seule ne fait pas vivre toute la filière tourisme.
Alors, comment faire revenir les touristes étrangers, parce qu'on le comprend, c'est l'une des raisons de la fébrilité.
Vous avez raison, car en 2019, la France accueillait 90 millions de visiteurs étrangers. Un an plus tard, c'est donc la crise, et ce chiffre tombe à 40 millions. Et cette année, on vise plutôt les 50 millions. La remontée, elle est donc lente, et elle le restera probablement. Et le souci, c'est que, du coup, nos hôteliers français manquent de trésorerie, et donc ne vont pas investir tout de suite pour rénover les hôtels. Et un touriste étranger, il va peut-être privilégier à ce moment-là Londres ou encore Barcelone, car il trouvera peut-être une meilleure prestation.
Qu'est-ce que réclame le secteur au gouvernement? Le prolongement du quoi qu'il en coûte ?
Alors d'abord, le plus urgent, c'est d'abord les stations de sport d'hiver. Là, c'est dans quelques mois, qui demandent des règles claires au gouvernement pour tenter de réussir une saison d'hiver. Ensuite, certains demandent effectivement un allongement pour rembourser le prêt garanti par l'État. Cela permettrait de voir plus loin et d'investir pour ne pas perdre cette fameuse course face aux autres pays européens. En France, l'État a tout de même accordé 38 milliards d'euros d'aide au secteur. C'est beaucoup, certes, mais désormais, les acteurs attendent surtout une stratégie de long terme.
Merci Arnaud Touche. Jean-Baptiste Lemoine, j'en reviens vers vous, le secrétaire d'État chargé du tourisme, sur les aides justement, c'est vrai qu'on attend un plan de reconquête, des annonces concrètes ce mois-ci. Est-ce qu'on peut imaginer que vous étaliez effectivement le remboursement des prêts garantis par l'État ? Pour l'instant, c'est remboursement sur 6 ans et on l'a compris, c'est parfois compliqué.
Alors sur les aides, regardons d'où on vient. Depuis 18 mois, nous avons mis sur la table 38 milliards d'euros d'aides. 38 milliards d'euros, c'est considérable. Ça comprend les prêts garantis par l'État, mais pas que, l'activité partielle, le fonds de solidarité, etc. Et c'est ce qui permet aujourd'hui aux acteurs d'être encore debout. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les acteurs nationaux l'ont dit, ils ont dit merci, grâce à vous, on est encore là. Et les acteurs internationaux l'ont dit, la France est le pays qui a sûrement le plus aidé au monde son secteur touristique. Et donc, on continue. Demain, avec Bruno Le Maire, nous recevons les secteurs impactés par la crise. Et donc, ça sera l'occasion de faire un point sur les dispositions dont ils ont besoin. Mais l'État a été là et on continuera d'être là parce que le tourisme, c'est essentiel, non seulement à nos vies, à chacun d'entre nous. On le voit bien, la vie n'est pas la même sans tous les plaisirs que procure le tourisme, mais c'est essentiel à la vie économique de notre pays.
Alors, question là de court terme pour justement attirer de nouveau notamment des touristes étrangers. Parlons des stations de ski. Arnaud l'évoquait, la saison arrive, c'est demain. Est-ce que cet hiver, ce sera ouvert ? Et surtout, est-ce qu'il faudra un pass sanitaire pour aller skier ? Parce que c'est un peu l'inquiétude du secteur.
Alors, déjà, cet hiver, c'est ouvert, c'est très clair. Les stations de montagne, elles se sont préparées. Je peux vous dire, moi j'ai été à leur rencontre en Haute-Savoie dernièrement, avec les acteurs du tourisme de montagne. Et on est prêt à accueillir aussi les clientèles internationales. Par exemple, il y a des trains qui sont mis en place depuis la Grande-Bretagne pour acheminer ces clientèles importantes. Henri Giscard d'Estaing du Club Med, tout à l'heure, nous confirmait par exemple qu'au mois de janvier, il y a 25 000 Brésiliens qui vont venir skier dans les stations françaises. Donc, bonne nouvelle, la montagne, après avoir connu un choc l'année dernière, eh bien, elle va revivre. Et s'agissant des règles... Alors, eh bien, écoutez... Dans quelques jours, vous aurez la réponse, puisqu'on a encore une réunion de concertation. On a encore une réunion de concertation avec les acteurs demain. Et je l'ai promis, la réponse aura lieu début novembre. On n'est donc plus très loin. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cet hiver, encore une fois, on skie, on retrouve les plaisirs de la glisse. Et c'est très important. Je le dis d'ailleurs, les premiers flocons sont tombés. Et je peux vous dire que les réservations, elles sont en train de s'enflammer. Donc c'est le temps de réserver si vous ne l'avez pas encore fait.
Jean-Baptiste Lemoine, pour faire revenir les étrangers, il va falloir séduire. On l'a compris. La fragilité de notre leadership, elle date aussi quelque peu d'avant le Covid. On vend à l'étranger l'image d'un Paris chic. Mais le touriste chinois ou japonais qui arrive aujourd'hui à Roissy, il prend le RERB pour aller dans la capitale. C'est pas forcément la meilleure vitrine de notre pays. Le projet de Charles de Gaulle Express pour relier la capitale à l'aéroport dans des navettes toutes neuves, rapides, il en est où ? Parce qu'il n'y a plus de date aujourd'hui. C'est enterré ou est-ce qu'il y a encore un calendrier ?
Non, mais de façon générale, le président l'a dit. Il a été très clair aujourd'hui. on doit mettre le paquet sur l'investissement et les infrastructures. Et donc les infrastructures, ça comprend notamment le ferroviaire, ses meilleures connexions. Ça comprend également, effectivement, l'arrivée, parce que la première impression, elle compte énormément. Oui. On en parlait tout à l'heure avec ADP. Et donc, je peux vous dire que on s'est fixé comme objectif, d'ailleurs, avec le président de la République, de mettre 20 milliards d'euros, d'avoir 20 milliards d'euros d'investissement désormais, alors que d'habitude, le tourisme en France, c'est 16 milliards par an. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter parce que, vous savez, le tourisme, il n'y a pas de mystère. Pour faire venir les gens, il faut une offre qui soit au goût du jour, qui soit moderne, qui soit attractive. Et puis, il faut aussi créer de nouveaux produits. Nous recevions tout à l'heure, justement, ces responsables du tourisme international à l'hôtel de la Marine. Et l'hôtel de la Marine, c'est ce joyau du 18e, place de la Concorde, qui a été rénové, qui a été ouvert seulement au mois de juillet dernier par Monoum. Et je peux vous dire que ça fait partie, voilà, de ces nouveaux produits qui sont là, qui peuvent être découverts. Et comme ça, je peux vous en citer à l'appel, parce que la France, pendant la crise, elle ne s'est pas arrêtée. On peut évoquer de nouveaux concepts qui sont nés ici ou là. Et donc ça, c'est porteur d'espoir.
Je me permets de reposer ma question. Le Charles de Gaulle Express, c'est enterré ou est-ce qu'il y a un calendrier, Jean-Baptiste Lemoyne ?
Non, mais alors, là, écoutez, le ministre des Transports pourra vous donner tous les éléments utiles, mais on garde naturellement l'idée d'avoir toujours une meilleure connexion entre l'aéroport, la ville. Je vous rappelle d'ailleurs que nous avons des événements internationaux qui se déroulent prochainement, justement la Coupe du Monde de rugby en 23, les JO en 24, tout ça, c'est aussi beaucoup de chantiers qui vont se poursuivre et qui vont permettre, qui vont laisser un héritage et qui permettront d'avoir des équipements et des infrastructures de bon niveau.
On parlait de l'image de la France à l'étranger, Jean-Baptiste Lemoyne. Tiens, je voudrais vous faire écouter le témoignage d'un auditeur qui nous a appelé au 3210. Il s'appelle François, il dirige un resto à Paris, dans un quartier très touristique, Saint-Germain-des-Prés. Écoutez-le.
Nous, on a ouvert en novembre 2015. Une semaine après, on avait les attentats. Quelques temps après, nous avons eu les gilets jaunes, les Champs-Élysées en feu, ensuite les grèves. Il y a aussi un aspect dégradant, c'est la propreté, c'est l'état des routes. Il y a dans la restauration, l'hôtellerie, le potentiel pour accueillir tous ces touristes, sauf que quand on a une image de la ville qui est complètement dégradée par des incendies, par des manifestations, des grèves ou autres, ben forcément ces touristes-là ont le choix aussi d'aller dans d'autres belles capitales en Europe et se détournent de Paris.
Est-ce que la vitrine de la France, Paris, a un problème d'image, Jean-Baptiste Lemoyne ? Est-ce que le Paris à la Amélie Poulain, c'est plus compliqué à vendre aujourd'hui ?
Ce qui est sûr, c'est que en termes d'image, on ne doit pas se reposer sur nos lauriers. Effectivement, on ne doit pas se reposer sur des images qui ont existé. Et on doit toujours mettre l'accent sur la promotion, le marketing, parce que les destinations voisines, effectivement, elles ne lésinent pas sur les moyens. Donc ça, c'est hyper important. Et donc, aujourd'hui, par exemple, des opérateurs ont annoncé des crédits supplémentaires pour mettre en avant la destination France. Et d'ailleurs, au-delà seulement de Paris, parce qu'il n'y a pas que Paris pour le tourisme. Heureusement, il y a d'ailleurs un engouement pour les destinations dans nos régions. Le littoral, la montagne, le patron d'Airbnb le signalait. Il disait, il y a désormais deux fois plus de demandes pour la Bretagne qu'il n'y en a pour Paris. Donc il y a une évolution des sociologies, des comportements. Le bonheur, il est dans le prêt désormais. On va moins loin. On souhaite plus voyager en circuit court et nous avons, ça tombe bien, nous des marques mondiales très fortes. Quand on parle de Normandie, de Burgundy, de Côte d'Azur, de Biarritz, ça résonne dans le monde entier. Eh bien, nous avons la chance de nous appuyer sur ce capital-là et ça, c'est un capital immatériel justement en termes d'image qui est très fort avec nos produits de gastronomie, etc. Et donc, on a des actifs très forts, mais maintenant, encore une fois, il faut des moyens. C'est ce que souhaite le président. On met des moyens à la fois pour investir et à la fois pour promouvoir parce que ce qu'on sait, c'est que la reprise, elle va être elle risque d'être forte, hein. C'est le rebond qu'on observe en ce moment, mais aussi très concurrentiel. Et je peux vous dire qu'on n'a pas envie de se laisser chipper la première place en termes de personnes internationales qui visitent.
Merci Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État chargé du tourisme, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL alors que c'est ouvert aujourd'hui le sommet Destination France. On va marquer une pause et ensuite direction Berlin sur RTL parce que dans les dessous de l'actu, on va se plonger sur ce record de contamination au Covid en Allemagne. C'est du jamais vu depuis le début de la crise au moment où l'Organisation mondiale de la santé craint 500 000 morts en Europe d'ici février. On va essayer de comprendre ce qui se passe chez nos voisins. A tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier.
RTL. Bonne fin de journée, 18h31.
RTL Soir,
avec Julien Cellier.
Si vous nous rejoignez à l'instant, je vous rappelle les grands titres de l'actualité à la une, la guerre de la pêche et la France qui temporise. Les discussions avec le Royaume-Uni reprendront la semaine prochaine au sujet des licences prévues dans les eaux britanniques. Paris fait toutefois savoir que les positions restent pour l'instant éloignées. Après 25 jours de grève de la faim, le père jésuite Philippe Démester cesse son mouvement à Calais, mouvement de soutien aux exilés. Mais il prévient, les mesures proposées par le médiateur sur place sont insuffisantes. Encore 400 migrants sauvés en mer hier, un corps retrouvé sur une plage ce matin. Et puis le foot, Ligue Europe ce soir avec à suivre dans le journal de 19h les débuts des matchs de Lyon face au Sparta Prague et de Monaco face à Eindhoven, les Néerlandais. Le temps maintenant, Peggy, pour
un demain. Temps plus calme demain, Julien, avec de belles éclaircies sur le nord-ouest et la façade atlantique, un beau soleil sur la Méditerranée mais avec du vent, et du sud-ouest au nord-est, un ciel bien chargé avec quelques averses mais beaucoup plus rares, quelques flocons également en montagne, et côté température de 8 à 13 degrés en journée jusqu'à 18 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu ce soir, les dessous du boom des contaminations au Covid en Allemagne. 34 000 nouveaux cas en 24 heures. C'est un record absolu. C'est du jamais vu outre-Rhin. Depuis le début de la crise sanitaire, même pendant les premières vagues, nos voisins n'avaient pas connu une telle hausse. On va essayer de comprendre avec notre correspondant à Berlin, Léo Brauer-Potier. Bonsoir Léo.
Guten Abend, Julien, bonsoir tout le monde.
Oui, la même chose, Léo. Le ministre de la Santé chez vous évoque une pandémie massive des non-vaccinés.
Oui, le pire, c'est que la sonnette d'alarme avait déjà été tirée déjà dès le mois d'octobre par les médecins qui travaillent en soins intensifs. Voici ce que racontait le mois dernier Karl Ziegler. Il est médecin en soins intensifs à la clinique de Rosenheim, en Bavière.
Knapp 50 patients.
Sur presque 50 patients, seuls 2 étaient complètement vaccinés contre la Covid. On a beaucoup de patients d'âge moyen, sans antécédents médicaux, et qui pourtant finissent par arriver en soins intensifs. Il aurait fallu mieux saisir cette chance de se faire vacciner pour éviter cette quatrième vague. Ça n'est pas arrivé et ça nous inquiète beaucoup.
L'épidémie des non-vaccinés se confirme dans les chiffres. C'est en Bavière, en Thuringe ou en Saxe où la vaccination est la plus faible que l'on retrouve la plus forte incidence du virus, jusqu'à 350 cas pour 100 000 habitants sur 7 jours. À l'inverse, à Brême, où 3 habitants sur 4 sont vaccinés, l'incidence y est 4 fois moins élevée.
Léo, chez vous, il n'y a pas de passe sanitaire pour limiter les risques comme chez nous ?
Alors justement, si, il y a un pass sanitaire, mais les contrôles se sont détendus au cours de l'été. Et puis l'Allemagne a pris du retard sur sa vaccination, puisque l'on compte en moyenne 66% de la population ayant reçu 2 doses, là où la France compte près de 3 habitants sur 4, pratiquement 75% donc de gens complètement vaccinés.
Et du coup, comment Berlin compte enrayer cette nouvelle vague ?
Alors les autorités vont essayer de renforcer les contrôles sur les règles d'hygiène, la protection des résidents en maison de retraite avec une nouvelle politique de test, et aussi accélérer les troisièmes injections pour le public plus vulnérable. Reste que l'Allemagne n'a plus de pilote dans l'avion pour coordonner la réponse sanitaire. La santé, c'est une compétence locale, ce sont les Länder, les régions qui ont le dernier mot. Angela Merkel avait fait du très bon boulot en essayant de mettre tout le monde d'accord, et son successeur n'est toujours pas arrivé.
Les dessous de cette vague record du Covid en Allemagne avec Léo Brauer-Potier ce soir depuis Berlin. Merci Léo. Auf Wiedersehen, comme on dit chez vous.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et oui, tous les soirs, les bons conseils de la bande de LVT pour occuper vos soirées, pour occuper vos enfants aussi, avec Julia Molcou, qui est vraiment la sauveuse des parents. Bonsoir Julia.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La donneuse de bonnes idées pour grands-parents ou parents désarmés. Vous nous avez trouvé un nouveau spectacle où emmener les petits pendant cette dernière semaine de vacances de la Toussaint.
Et c'est encore avec les classiques de la littérature que l'on fait les meilleurs spectacles pour enfants. Alors après Peter Pan, voici Blanche-Neige qui se joue en ce moment au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Alors j'imagine que c'est bon pour tout le monde, l'histoire de Blanche-Neige,
ouais,
la méchante belle-mère, le miroir qui lui dit qu'elle n'est plus la plus belle, les 7 nains, etc. Bon, et bien imaginez que sous la direction d'Olivier Soliveres, ça donne un spectacle pour toute la famille avec des hologrammes et du mapping pour rendre le truc encore plus dingue.
Pour te remercier, laisse-moi t'offrir cette belle pomme rouge.
Cette...
Oui ! Je veux dire,
oui.
Maintenant, croque la pomme. Croque.
Mais qu'est-ce qui m'arrive?
Mais quand vous dites qu'il y a des hologrammes et du mapping, qu'est-ce que ça donne sur scène?
Alors, imaginez Blanche-Neige au milieu de ses copains, les petits animaux là tout mignons qu'elle caresse, qui viennent se poser sur ses bras. Imaginez-la maintenant courir à travers une forêt sombre et inquiétante. Bien voilà, vous êtes au théâtre, mais par moments, vous êtes transporté ailleurs, comme par magie, et c'est vachement réussi.
Et c'est aussi un spectacle musical.
Ah bah bien sûr, ça chante,
oui,
ça
on commence
danse.
À vous connaître.
C'est gracieux, quand c'est gracieux, c'est grinçant quand ça doit l'être. La sorcière est très très laide, Blanche-Neige est très très jolie, et je voudrais pas vous divulguer la fin. mais tout est bien qui finit bien. Vous savez qui fait la voix du miroir ?
Non.
Pierre Arditi.
Ah bon,
ah
super.
Bah voilà, tout est bien, je vous dis. Allez, rendez-vous au Théâtre de la Gaîté à Paris. J'ai demandé s'il y aurait une tournée. Pour l'instant, ça n'est pas prévu, mais le spectacle se jouera jusqu'au printemps prochain. Ça peut vous laisser le temps de vous organiser pour emmener vos petits choux. Et vraiment, vous n'allez pas vous ennuyer une seconde, ni vous, ni eux.
Les bons conseils de Julia Molcou. Merci Julia, vous revenez demain.
À
pour
demain.
À nouveau, laissez-vous tenter dernier. On parlera d'Ibrahim Malouf, je crois, qui
sera
un album de Noël.
De Noël,
et
magnifique.
On adore Ibrahim Malouf. Merci Julia. On marque une courte pause dans un instant. On défait le monde.
Oui.
20 minutes pour apprendre tout plein de choses avec Cyprien Sini, Céline Landreau, Laurent Tessier, Arthur Asquin. Bonsoir les amis.
Bonsoir.
Au moment où les ventes de voitures électriques explosent, en pleine COP26 aussi, on s'est posé la question. Mais au fait, les Tesla, les Zoé et tout ça, est-ce qu'elles sont vraiment écolo ? A tout de suite.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.